Vous écoutez On lit pour vous.
Un tribunal juge discriminatoire l'absence d'option de genre neutre dans le registre familial japonais. Un texte d'Étienne Leduc, paru le 14 mai 2026 dans Fugue. Le Japon vient de franchir une étape majeure dans la reconnaissance légale des personnes non-binaires. Le 8 mai dernier, la Cour supérieure d'Osaka a statué que le système japonais d'enregistrement familial, connu sous le nom de Koseki, pourrait contrevenir aux protections constitutionnelles en matière d'égalité, puisqu'il ne reconnaît actuellement que les catégories hommes et femmes. Cette décision est déjà considérée par plusieurs militants et juristes comme un moment charnière pour les droits des personnes non-binaires au Japon. Un recours porté par une personne non-binaire de Kyoto. L'affaire a été déposée par une personne non-binaire âgée de 50 ans, vivant dans la préfecture de Kyoto. Dans sa requête, la personne demandait que la mention « fille aînée » figurant dans le registre familial soit remplacée par un terme neutre du point de vue du genre. Le Koseki constitue un système administratif central au Japon. Ce registre officiel consigne notamment les naissances, les décès, les mariages, les liens familiaux, ainsi que certaines informations liées à l'identité civile. Or, ce système ne prévoit actuellement aucune reconnaissance légale des identités non-binaires. Une reconnaissance encore incomplète. Même si la Cour n'a pas immédiatement accordé la modification demandée par la personne requérante, elle a estimé que l'absence d'options non-binaires dans le système japonais devait être réévaluée à l'échelle nationale. Le tribunal a également indiqué que si une catégorie de genre neutre était éventuellement créée, la demande de la personne concernée devrait être réexaminée. Dans sa décision, la Cour affirme que l'identité de genre est directement liée à l'existence personnelle d'un individu, ce qui en fait un intérêt juridique fondamental. Pour plusieurs défenseurs des droits LGBTQ+, cette formulation représente une avancée importante dans le contexte juridique japonais. Une avancée majeure. L'avocat Shun Nakaoka, impliqué dans plusieurs dossiers liés à la reconnaissance non-binaire au Japon, a qualifié cette décision de « pas immense vers une reconnaissance légale ». Selon lui, les identités non-binaires demeuraient jusqu'à maintenant pratiquement invisibles dans le droit japonais. Jusqu'ici, l'existence même des personnes non-binaires n'était pas reconnue légalement, souligne-t-il. Même si la décision ne modifie pas immédiatement les documents officiels ou les procédures administratives, elle crée un précédent constitutionnel important qui pourrait ouvrir la porte à de futures réformes. Le Japon sous pression sur les enjeux LGBTQ+. Le Japon demeure l'un des seuls pays du G7 à ne toujours pas reconnaître légalement le mariage entre personnes de même sexe à l'échelle nationale. Cependant, au cours des dernières années, plusieurs tribunaux japonais ont rendu des décisions importantes en faveur des droits LGBTQ+. Jugement déclarant inconstitutionnel l'interdiction du mariage homosexuel, remise en question des obligations de stérilisation imposées aux personnes trans, reconnaissance accrue des discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Les mouvements LGBTQ+ japonais réclament maintenant une modernisation plus large des lois entourant l'identité de genre et la reconnaissance des personnes non-binaires. Pour plusieurs militants, la décision de la Cour supérieure d'Osaka envoie néanmoins un signal important à l'international. Les identités non-binaires gagnent progressivement une reconnaissance juridique dans des sociétés où elles demeuraient longtemps invisibilisées. Une réalité qui résonne aussi au Québec. Au Québec comme ailleurs, les enjeux liés à la reconnaissance administrative des personnes non-binaires continuent également d'évoluer. Depuis 2022, les personnes non-binaires québécoises peuvent notamment utiliser la mention de genre X sur certains documents officiels, dont les certificats de naissance et les cartes d'assurance maladie. Plusieurs organismes communautaires, comme le Conseil québécois LGBT et ASTTQ, rappellent toutefois que de nombreux obstacles demeurent pour les personnes trans et non-binaires, particulièrement dans les systèmes administratifs et médicaux. C'était « Un tribunal juge discriminatoire l'absence d'option de genre neutre dans le registre familial japonais ». Un texte de Étienne Leduc, paru le 14 mai 2026 dans Fugue.
Les 38 millions autrefois réservés aux livres dans les écoles pourront être utilisés ailleurs. Un texte de Pierre Saint-Arnaud paru le 11 juillet 2026 dans Le Devoir. La ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, aura finalement fait la sourde oreille aux multiples cris d'alarme lancés par le milieu du livre, les enseignants et plus de 17 000 signataires d'une pétition lui demandant de protéger l'enveloppe dédiée à l'achat de livres dans les écoles. Les règles budgétaires que doivent suivre les centres de services scolaires, CSS, qui viennent tout juste d'être dévoilées, confirment leurs pires craintes. L'enveloppe de 38 millions de dollars qui était jusque-là réservée à l'achat de livres a été fondue dans une grande enveloppe qui comprend également les budgets pour une foule d'autres activités. On peut ainsi lire dans le document du ministère que les 288 millions de dollars que contient cette nouvelle enveloppe globale permettront d'intégrer plus d'activités physiques au quotidien, d'offrir des activités parascolaires variées, d'augmenter l'accessibilité à des programmes et projets pédagogiques particuliers, de développer les collections des bibliothèques scolaires et d'intégrer la culture dans les apprentissages. Elle permet également de soutenir la réalisation de projets culturels, scientifiques et artistiques, l'organisation de sorties éducatives, exemple en plein air, ainsi que la mise en place de comités culturels. Le document précise d'ailleurs que les normes d'allocation de l'année scolaire 2025-2026 s'appliquent, à l'exception du concept de mesures dédiées, protégées et non transférables, puisque les mesures pour l'année scolaire 2026-2027 sont sans contrainte, sauf la mesure portant sur l'aide alimentaire. En d'autres termes, l'enveloppe n'est plus segmentée et réservée à des usages spécifiques, dont l'achat de livres. Tout l'écosystème sur le qui-vive. L'inquiétude dans le milieu est très grande, affirme Gabrielle Simard, directrice générale de l'Association des libraires du Québec. On ne parle pas de compression, ils n'ont pas coupé des budgets. La ministre de l'Éducation nous annonçait d'ailleurs qu'il y avait des nouvelles sommes il y a quelques semaines pour les écoles secondaires. Ce sont des bonnes nouvelles, mais ce ne sont pas des sommes qui peuvent servir juste aux livres. Donc, nous, ce qui nous inquiète, c'est que ça serve à n'importe quoi d'autre. La chaîne du livre comprend de nombreux acteurs. Elle comprend les auteurs et autrices, les illustrateurs, les maisons d'édition, les distributeurs-diffuseurs, les libraires. Une pression à la baisse aura un impact particulièrement important chez ceux qui sont dans le domaine de la littérature jeunesse, souligne Mme Simard. Il y a beaucoup d'éditeurs jeunesse en ce moment qui sont très inquiets, puis qui se demandent quelles actions ils vont devoir poser pour passer au travers de l'incertitude qui se pointe. Parce qu'en même temps, c'est un peu ça le problème aussi, c'est que quand la mesure est dédiée, que le livre est protégé, on a une certaine prévisibilité dans le milieu. Gabrielle Simard rappelle également que le choc va traverser l'ensemble de la province. Il y a des libraires dans chacune des régions du Québec, des librairies agréées, il y en a plusieurs. Il y a les libraires qui font partie de chaînes, il y a les librairies qui sont indépendantes, les coopératives scolaires aussi. Flou total. L'enveloppe qui était dédiée aux livres soutenait deux programmes. L'un consistait à donner à chaque enseignante une somme d'environ 300 $ pour l'achat de livres pour sa classe. Aucune information n'a été donnée par le ministère quant à l'avenir de cette mesure, ce qui laisse croire que ces sommes ont tout simplement été amalgamées dans la grande enveloppe et pourront être utilisées par les CSS à leur discrétion. L'autre mesure consistait à financer l'achat des livres pour les bibliothèques scolaires, mais en partenariat. Les CSS devaient en effet soutenir l'achat en défrayant le tiers du coût, les deux tiers étant payés par l'enveloppe du ministère. La crainte dans le milieu est que les CSS, n'étant plus obligés d'utiliser l'argent pour acheter des livres et, donc, n'étant plus obligés de payer le tiers de ces achats, placent l'argent ailleurs où ils n'ont pas cette obligation de dépenser. Gabriel Simard raconte que le flou le plus complet règne toujours sur cette question aussi. On a eu des échos que le ministère compenserait le tiers qui était demandé au centre de services scolaires et qu'il n'aurait plus besoin de le fournir, mais on n'a jamais eu de confirmation officielle de la part du ministère sur cette question-là. Impact culturel pour les jeunes. Au-delà de l'impact économique sur l'écosystème du livre, les interrogations sur l'avenir de la culture deviennent pressantes si l'on ne soutient plus de manière systématique la présence du livre à l'école à l'ère des écrans. Dans plusieurs messages qui sont véhiculés par le gouvernement actuellement, que ce soit par rapport à la francisation, à la découvrabilité des œuvres québécoises, à la culture québécoise, à la littératie, on a l'impression qu'on nous parle peut-être un peu des deux côtés de la bouche, avance Mme Simard. D'un côté, on nous prône des désirs, des volontés de s'améliorer sur tous les plans que je viens de vous nommer là, mais de l'autre côté, en fait, on ne se donne pas les moyens, je pense, d'atteindre ces objectifs-là. Je ne vois pas la logique, surtout, dit-elle, à la lumière des derniers chiffres dévoilés par la Fondation pour l'alphabétisation. Celle-ci nous apprenait le printemps dernier qu'au Québec, 52% des adultes de 16 à 65 ans n'atteignent pas le niveau de littératie qui permet de comprendre un texte long, comme un article de journal ou un contrat, soit près de 3 millions de personnes. Les enveloppes dédiées à l'achat de livres dans le milieu scolaire existent depuis une vingtaine d'années et l'ensemble du milieu entend en faire un enjeu électoral. Visiblement, la ministre Lebel n'a pas changé d'idée. On ne peut pas compter là-dessus avant la fin de son mandat. Donc, on se dit que les prochaines élections sont une opportunité. Puis on espère que le dossier va faire partie des discussions dans ce contexte-là. On espère avoir des engagements des différents partis par rapport au livre et au fait de le protéger et de se donner les moyens d'avoir la société qu'on souhaite avoir. C'était les 38 millions autrefois réservés aux livres dans les écoles pourront être utilisés ailleurs, un texte de Pierre Saint-Arnaud paru le 11 juillet 2026 dans Le Devoir.
Les meilleurs cadeaux de Noël, ou presque. D'hier à aujourd'hui, un texte de Jessica Guillemette paru le 9 décembre 2025 dans BANQ. Des fruits aux poupées en passant par les traditionnelles cravates. Voici un bref historique de la tradition des cadeaux de Noël au Québec, tel que vu dans les documents d'époque conservés par BANQ. Des grands classiques aux cadeaux plus insolites, que s'offrait-on avant au Québec? Avant les cadeaux, les étrennes. La tradition des cadeaux ne date pas d'hier. Dans l'Antiquité, les Romains offraient lors du passage à la nouvelle année des branches de bois, des strenae en l'auteur de Strenia, la déesse de la purification et du bien-être. Les branches furent peu à peu remplacées par des billes, des noix, du miel ou des figues. Au fil du temps, le mot strenae fait place en français au mot étrenne. À partir du Moyen-Âge, les cadeaux à l'intention des enfants commencent à prendre plus de place. À cette époque, ce sont surtout les petits de la bourgeoisie et de l'aristocratie qui reçoivent des étrennes. Mais en général, cela reste une tradition ayant pour but de présenter ses respects. En Nouvelle-France, les instances religieuses documentent par exemple le don d'étrennes au Nouvel An. Les étrennes offertes au jour de l'an demeurent au centre des traditions du temps des fêtes jusqu'à la fin du XIXe siècle. Au Québec, c'est une occasion de remercier voisins, clients et employés à l'aide d'une petite attention et d'un bon souhait. Encore aujourd'hui, il est possible d'entendre parler d'étrennes lorsqu'on fait référence aux cadeaux de Noël. La révolution des fêtes. À partir du 19e siècle, plusieurs changements viennent bouleverser les traditions du temps des fêtes. La figure du Père Noël commence à prendre forme, entre autres grâce à la publication en 1823 du poème « La nuit de Noël » de Clément Clark Moore, qui fixe dans les esprits quelques-uns des attributs du personnage jovial qu'on connaît aujourd'hui. La grosse barbe blanche, le traîneau tiré par des rennes, l'entrée par la cheminée. Cette représentation sera d'ailleurs reprise dans les publicités de Coca-Cola à partir des années 1930, à un point tel qu'une croyance populaire attribue à la compagnie américaine l'invention du Père Noël. D'autres œuvres littéraires, telles qu'Un chant de Noël de Charles Dickens, illustrent quant à elles une célébration festive et familiale. Peu à peu, la place de Jésus dans les fêtes de fin d'année est prise par le Père Noël, tandis que Noël prend le pas sur le jour de l'an. Au Québec, l'apparition des premiers grands magasins, Dupuis Frères, Lepage et compagnie, Morgan, Eaton, etc., vient cimenter ce nouvel imaginaire de Noël dans lequel la générosité, l'opulence et les valeurs familiales prennent le dessus par rapport aux célébrations religieuses entourant la nativité. Les cadeaux offerts à Noël commencent à occuper une place centrale dans le temps des fêtes et les magasins attirent les clients à coups de vitrines alléchantes, de publicités dans les journaux et de visites du Père Noël. Plus tard, d'autres techniques de vente s'ajoutent. Les catalogues imprimés, distribution aux consommateurs, Simpson, Sears, Eaton, etc. La vente par correspondance et l'essor du web contribuent tour à tour à faire croître l'offre de cadeaux et à marquer l'imaginaire de générations d'enfants qui s'extasient devant tant de possibilités. Des jeux de société aux poupées Barbie en passant par les Light Bright et les fours pour enfants Easy Bake, l'éventail de jeux et de jouets atteint des sommets à partir du milieu des années 1960. Les adultes ne sont pas en reste. Les électroménagers, les outils de bricolage et les articles de maison prennent une place grandissante lors du magasinage de Noël. Dans cette offre gargantuesque, certains classiques continuent toutefois d'occuper une place spéciale dans les listes de cadeaux des Québécois. Les cadeaux de 1900 à aujourd'hui, des avancées technologiques aux classiques indémodables. D'un siècle à l'autre, les vêtements constituent des cadeaux populaires, tant pour les hommes que pour les femmes. Vestons, cravates et gants d'un côté, fourrures, robes et pantoufles de l'autre. Les montres, les plumes et les rasoirs sont aussi des suggestions très répandues. On trouve même des publicités dans les journaux pour de l'alcool et des cigarettes. Devant la frénésie de Noël, presque tout devient un cadeau idéal pour le temps des fêtes. Les cadeaux proposés évoluent au gré des nouvelles inventions de l'époque. Les phonographes et les gramophones, très populaires au début du XXe siècle, laissent place aux radios dans les années 1950, puis aux lecteurs de cassettes dans les années 1960. Les instruments de musique et les appareils photo pour immortaliser les souvenirs festifs en famille occupent également une place de choix dans les réclames publicitaires. Du côté des enfants, les livres, les toutous, les poupées et les chevaux à bascule mènent le bal. Mais on trouve aussi quelques versions pour enfants de cadeaux pour adultes. Par exemple, des vestons trois pièces. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'offre se diversifie pour faire place aux jeux, jouets et consoles en tout genre. Du royaume des jouets au village de Noël, on mise beaucoup sur les rencontres avec le Père Noël et la Fée des Étoiles pour attirer les familles dans les grands magasins. Les bas de Noël demeurent également un incontournable du temps des fêtes. Des variations existent quant à l'origine de cette tradition, mais l'essentiel demeure. On y dépose des friandises, des pièces de monnaie et des petites surprises, et parfois un morceau de charbon pour les enfants qui n'ont pas été sages pendant l'année. Qu'ils proviennent du Père Noël ou d'un être cher, les cadeaux sont aujourd'hui bien ancrés dans les rituels entourant le temps des fêtes. Et si votre père demande encore des bas ou des gants pour Noël, dites-vous qu'il ne fait que perpétuer une tradition vieille de plus d'un siècle. C'était les meilleurs cadeaux de Noël, ou presque, d'hier à aujourd'hui, un texte de Jessica Guillemette paru le 9 décembre 2025 dans BANQ.
Voiture électrique. Comment optimiser au maximum le coût de recharge? un texte d'Adrien paru le 20 octobre 2025 dans technosciences.net. L'efficacité des voitures électriques est maximale lorsqu'elles sont partagées et rechargées intelligemment. Pour y parvenir, il est essentiel de disposer d'informations en temps réel sur les prix de l'électricité et les émissions de CO2. C'est ce que démontre une étude de l'AMPA et de l'Université de Genève, UNIGE, fondée sur des données exhaustives issues du covoiturage et publiée dans Environmental Science and Technology. La réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport de personnes passe par davantage de véhicules électriques et moins de voitures en circulation. Le covoiturage représente ici un fort potentiel. Mais toutes les recharges ne se valent pas. Selon l'heure de la journée, le mix électrique, et donc les émissions de CO2 associées à la production de l'électricité, ainsi que les prix de l'électricité varient. En analysant les données d'environ 1,5 million d'utilisateurs et utilisatrices de Mobility, les scientifiques de l'AMPA et de l'UNIGE ont étudié la recharge des voitures électriques en fonction des émissions induites. La plupart des gens en Suisse, pays de l'étude, ne connaissent ni le prix réel de l'électricité ni les émissions de CO2 associées au moment de la recharge. Leurs résultats montrent qu'il est rarement possible de bénéficier à la fois de prix bas et d'émissions réduites. Sur l'année, optimiser uniquement les coûts permet une économie moyenne de 21%, mais engendre une multiplication par 5 des émissions de CO2. Inversement, une recharge climatiquement optimale réduit les émissions jusqu'à 82%, mais augmente les coûts de près de 27%. L'un des principaux défis consiste à concilier objectifs de coût et objectifs climatiques. Idéalement, recharger de manière respectueuse de l'environnement devrait aussi être financièrement attractif, explique Sven Eggemann, chercheur à l'AMPA et auteur de l'étude. La nécessité de tarifs dynamiques et d'informations en temps réel. Les calculs de l'étude reposent sur des prix de l'électricité qui varient d'heure en heure. Mais si seules des grilles tarifaires simplifiées, distinguant simplement le jour et la nuit, sont mises en place, la recharge intelligente devient difficile à appliquer. La plupart des gens en Suisse ne connaissent ni le prix réel de l'électricité ni les émissions de CO2 associées au moment de la recharge, souligne Elliot Romano, chercheur à l'AMPA et collaborateur scientifique à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UNIGE. Pour permettre des stratégies de recharge respectueuses du climat ou optimisant les coûts, les utilisateurs et utilisatrices ont besoin d'informations en temps réel, idéalement accessibles via des compteurs intelligents. Pour que la recharge pendant les périodes à faibles émissions devienne économiquement intéressante, des incitations adaptées sont également nécessaires, comme des tarifs d'électricité indexés sur l'intensité carbone. Les simulations menées à l'AMPA montrent qu'avec un prix dynamique du CO2 d'environ 30 centimes par kilogramme équivalent tant de CO2 en moyenne, soit une taxe de 72 centimes par 100 kilogrammes ou environ 100 CHF par an pour un véhicule standard en Suisse, il devient possible de concilier recharge respectueuse du climat et optimisation des coûts. Mais uniquement si les tarifs reflètent réellement les émissions liées à la consommation électrique. Idéalement, la recharge devrait reposer sur des démarches volontaires, soutenues par des incitations, précise Elliot Romano. Cela peut prendre la forme de tarifs préférentiels ou de places de stationnement réservées aux périodes à faibles émissions. À défaut, l'accès à la recharge pourrait être restreint ou les comportements peu flexibles soumis à des frais supplémentaires. Utilisation plus fréquente pendant la journée, mais une solution respectueuse de l'environnement. Les véhicules partagés sont utilisés plus fréquemment et surtout en journée. Ils nécessitent donc davantage de recharge pendant la nuit, une période où le mix électrique est souvent moins favorable sur le plan climatique. Pourtant, selon Sven Eggemann, les émissions et les coûts globaux de leur recharge ne diffèrent que légèrement de ceux des véhicules privés. Les voitures partagées sont plus intensivement sollicitées, mais grâce à de courtes pauses de recharge et à l'essor des infrastructures de recharge rapide, il reste suffisamment de possibilités pour privilégier des périodes à faibles émissions. Le covoiturage offre, lui, une perspective encore plus prometteuse, une réduction substantielle du parc automobile. Avec 25 % de voitures en moins dans les villes suisses, la pression sur l'approvisionnement électrique hivernal pourrait être sensiblement allégée. Le covoiturage demande globalement moins d'énergie, puisqu'il y a moins de véhicules en circulation, précise Elliot Romano. Même si le nombre total de kilomètres parcourus chaque année reste comparable à celui des voitures privées, une part croissante des déplacements s'effectue via d'autres modes de transport en complément des véhicules partagés. Cela contribue à soulager le système énergétique dans son ensemble. Le défi structurel de l'hiver. Pour réussir une transition durable dans le domaine des transports, les véhicules électriques ne peuvent être envisagés indépendamment de l'optimisation de leur recharge. Cela suppose des avancées tant réglementaires que techniques, souligne Sven Eggemann. À long terme, l'objectif est clair. Disposer d'une infrastructure de recharge capable de guider automatiquement les utilisateurs et utilisatrices vers des périodes peu coûteuses et à faibles émissions, sans avoir à intervenir en permanence. Si la Suisse mise davantage sur les voitures électriques à l'avenir, le système énergétique devra s'adapter en profondeur. Même avec des temps de recharge optimisés et un parc automobile réduit grâce au covoiturage, la demande supplémentaire d'électricité liée à l'électrification de la mobilité privée restera élevée, avec un déficit hivernal simulé d'environ 1 TWh par mois à l'horizon 2050. Ce déficit saisonnier d'approvisionnement ne pourra pas être comblé uniquement par davantage de batteries ou par un simple décalage des horaires de recharge, prévient Elliot Romano. L'électrification constitue donc seulement une partie de la solution. Celles et ceux qui veulent véritablement agir pour le climat misent aussi sur le covoiturage, les transports publics et, plus largement, sur une réduction de l'usage de la voiture individuelle. C'était « Voiture électrique. Comment optimiser au maximum le coût de recharge ?» Un texte d'Adrien paru le 20 octobre 2025 dans technosciences.net.